premier temps d'une série d'émissions de La Fabrique sur l'histoire des assemblées. Aujourd'hui, les assemblées dans l'Athènes classique. Un nouvel épisode de notre feuilleton sur l'histoire de la guerre froide préparé par Anaïs Quien. Nous entamerons notre série sur les assemblées et leur histoire, pendant laquelle nous parlerons demain par exemple des états généraux et mercredi de l'invention d'un régime parlementaire dans les États-Unis nouvellement indépendants. Ce matin, partons pour la Grèce qui est redevenue récemment un modèle pour certains mouvements citoyens, en particulier en raison de l'usage du tirage au sort, un tirage au sort remis sur le devant de la scène il y a 10 jours par la reconstitution par le CNRS d'un clérotérion, une machine à tiré au sort. Pour cette émission, nous aurons le bonheur avec Anaïs Quien de recevoir Vincent Azoulay. Il est professeur à Paris-Est Marne-la-Vallée. Il est auteur entre autres d'un Périclès, mais aussi d'un numéro de la documentation photographique paru il y a 2 ans sur Athènes. Et il commentera pour nous des textes de Plutarque, d'Aristote, d'Aristophane qui seront lus par Lison Pinet. Mais je vous ai promis un nouvel épisode du feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide. C'est pour tout de suite.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napřed.
Уважаемые гости.
27. съезд КПСС. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros du combat de Taizan.
Placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no?
La fabrique de la guerre froide. Le 22 août 1991 à Moscou, on déboulonne la statue de Félix Dzerzhinsky, l'ancien patron de la Tchéka, ancêtre du KGB. La nouvelle fédération de Russie règle ses comptes avec son passé soviétique.
Tout un symbole. Félix Dzerzhinsky, la corde au cou, avant sa chute définitive. Les manifestants à Moscou s'enhardissent. Sous les fenêtres du KGB, en face de la Loubianka, cette geôle qui les a terrorisés pendant si longtemps, ils sont des milliers à conspuer ce vieux Félix, le metteur au point dans les années 20 du gouvernement par la terreur. Une foule disciplinée, bien encadrée, qui évite tout débordement de violence. Une foule folle de joie, dosée sous le regard impuissant de ceux qui étaient chargés de gérer leur peur.
La scène se déroule effectivement sur la place de la Loubianka.
Julie de Chepper.
Qui est donc cette place proche de la place rouge, proche des lieux de pouvoir, mais surtout sur laquelle sont érigés les bâtiments de la police politique, à ce moment-là le KGB. Et donc au cœur de cette place est érigée une statue gigantesque sur un piédestal assez haut. Et cette statue est celle de Félix Dzerzhinsky, qui était le fondateur et celui qui a été à la tête de la Tchéka, donc l'ancêtre du KGB. Et cette statue donc est érigée en pied. Donc le Félix Dzerzhinsky regarde la foule, et ce que l'on observe, c'est donc des cordes qui sont placées autour de la statue, mais aussi différents tags, différentes inscriptions déjà sur le piédestal. Donc on a une première forme de vandalisme et d'iconoclasme autour de cette statue. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a l'impression d'un mouvement populaire et spontané, mais on remarque aussi par exemple la présence de grues, la présence de camions, la présence de certaines forces de police. Et effectivement, le maire de Moscou, Louchkov, écrira dans ses mémoires qu'en fait rien n'était spontané, que tout avait été organisé, et notamment que les préfets de région de Moscou étaient là, avaient tout prévu et criaient avec des haut-parleurs sur la place « Ne vous inquiétez pas, on va se charger de tout. On arrive avec des grues très solides qui vont donc déboulonner cette statue. » Donc même si Louchkov semble exagérer peut-être aussi son rôle, notamment dans ses mémoires, il est tout à fait certain que les autorités ont elles aussi jouer un rôle dans le déboulonnement et donc dans la chute de cette statue qui est éminemment symbolique et qui est considérée par certains historiens comme l'acte fondateur en fait de la Russie post-soviétique. Et sachant aussi que ce coup d'État qui a lieu au mois d'août, s'il renforce le pouvoir de Boris Yeltsin, il contribue aussi largement à l'effondrement précipité de la chute de l'URSS et à la délégitimation de Gorbatchev. Là, on est en août 1991, les choses ont déjà changé, notamment avec les politiques menées par Mikhaïl Gorbatchev, les bien connus Glasnost et Perestroïka, qui, malgré tout, amènent un souffle nouveau au sein de la population, et pas seulement du point de vue de l'expression des idées, mais aussi de la possibilité d'assumer et d'exprimer ce qu'il y a eu vraiment d'horrible durant la période soviétique. Donc on peut penser évidemment à ces millions d'individus qui ont connu au sein de leur famille la terreur, mais aussi toute forme de répression durant toute la période soviétique. Et donc évidemment, le fait que on descende dans la rue sur cette place qui est l'incarnation de la police politique, l'incarnation de la répression et l'incarnation de tout ce que l'URSS a fait de pire en fait pendant cette période extrêmement longue, évidemment, est tout à fait symbolique pour la population. Alors, il s'agit d'images du coup d'État, plus communément appelé le putsch de Moscou, qui a eu lieu au mois d'août 1991. Et ce coup d'État était dirigé contre Mikhaïl Gorbatchev, qui était alors en vacances tranquillement en Crimée. Cette tentative de prise de pouvoir a été faite par la GKCP, qui a donc tenté de prendre le pouvoir. Ce sont des communistes, mais qui ne sont plus forcément d'accord avec la politique de Mikhaïl Gorbatchev à cette période-là, et qui donc tentent de s'emparer du pouvoir au mois d'août. La particularité de ce coup d'État, c'est qu'il a été très rapidement dénoncé par la population, qui est descendue dans la rue. Et c'est aussi à ce moment-là que Boris Yeltsin, qui est tout juste élu premier président de la Fédération de Russie depuis le 12 juin 1991, qui se présente comme le défenseur du pouvoir, le défenseur de la Fédération de Russie en l'absence de Mikhaïl Gorbatchev, et qui se présente aussi à ce moment-là comme l'homme politique fort du pays. Et c'est donc ce coup d'État qui a échoué, qui va largement participer à sa légitimation, la légitimation de son pouvoir.
Voilà pour ce nouvel épisode de La Fabrique de la Guerre froide, que vous pouvez bien entendu télécharger séparément de l'émission de ce jour, une émission qui va traiter de la question du régime d'assemblée. Peut-on d'ailleurs parler de régime d'assemblée dans l'Athènes classique pour commencer notre série donc consacrée à cette histoire des assemblées, alors que nous vivons une période législative très importante et d'élections législatives très importantes en France. Nous serons en compagnie de Lison Pinet. Bonjour Lison Pinet, qui va nous lire les textes aujourd'hui. Choisi et commenté par Vincent Azoulay. Bonjour Vincent Azoulay.
Bonjour.
Et avec vous Anaïs Quien, qui avait préparé avec nous cette émission. Alors si on commence tout doucement, pourrait-on dire, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est peu connue au bout du compte, sinon si on va au-delà des idées reçues, la naissance de la démocratie athénienne généralement. Comment cela se passe-t-il, et surtout chronologiquement, comment voit-on émerger cette question des assemblées délibératives dans l'Athènes dite classique, Vincent Azoulay?
Disons que les questions sérieuses commencent à se poser à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, on va compter à l'envers, et au début du 5e siècle, et de façon assez coutumière, on date les débuts de ce qui va être la démocratie, des réformes d'un législateur qui s'appelle Clisthène et qui s'appuie sur le peuple pour proposer toute une série de modifications institutionnelles, territoriales, qui vont donner le coup d'envoi de la démocratisation de la cité d'Athènes, et les assemblées, mais aussi le conseil, qui est intrinsèquement lié aux assemblées, vont être profondément modifiés à cette époque et permettre l'émergence progressive de cette démocratie.
On est en 508, c'est ça ?
On est en 508, 507, puisque les années sont à cheval.
Inversé, oui, c'est ça. Anaïs,
avant Jésus-Christ.
Oui, Vincent Azoulay, ce sont des siècles d'installation du principe, de ce principe d'assemblée, mais le pouvoir de cette assemblée va varier fortement entre le 5e siècle et le 4e siècle.
Oui, tout à fait. Disons que l'assemblée populaire, donc qui rassemble tous les citoyens de plus de 18 ans, potentiellement, s'ils prennent le temps d'y venir, qui se réunit une quarantaine de fois par an, en tout cas au IVe siècle, va voir ses pouvoirs alternativement augmenter au cours du début du Ve siècle, avec une montée en puissance, notamment après les guerres médiques. Disons, la seconde guerre médique, c'est 480 avant Jésus-Christ, et voilà là, les vraies réformes qui vont donner un pouvoir substantiel au peuple dans le cadre des assemblées, c'est les années 460-450, avec le nom d'un autre homme important qui s'appelle Éphialte, puis ensuite Périclès, bien entendu. Donc, le monter en puissance dans la première moitié du Ve siècle à la suite des guerres médiques. Et puis, ensuite, une certaine normalisation du pouvoir des assemblées et une codification de plus en plus grande au IVe siècle, avec des répartitions de plus en plus tranchées entre les pouvoirs des différentes institutions, donc l'Assemblée d'un côté, le Conseil et également les tribunaux populaires.
Alors, il faut préciser à nos auditeurs que si on connaît bien la façon dont fonctionne le régime d'assemblée dans l'Athènes classique, on le connaît peu dans d'autres cités grecques, parce que dans l'Athènes classique il y a eu beaucoup d'écrivains, qui ont beaucoup d'auteurs, beaucoup d'historiens qui ont raconté cette histoire, beaucoup de philosophes aussi, on en parlera d'ici quelques temps avec vous, Vincent Azoulay, mais que pour d'autres cités, que ça soit Sparte ou d'autres cités de la Grèce classique, eh bien il est plus difficile de se faire une idée, alors que l'on sait que ces régimes d'assemblée n'étaient pas exactement les mêmes que ceux d'Athènes, en l'occurrence.
Oui, tout à fait. C'est la fameuse question de l'athénocentrisme, qui est la question de la documentation, en tout cas pour l'époque classique. Puisque, en réalité, à l'époque hellénistique, donc après les conquêtes d'Alexandre le Grand, la documentation est beaucoup mieux répartie sur l'ensemble du monde grec, parce que ça, rappelons-le, hein, et aussi aux auditeurs, quand on parle de monde grec, on parle de 1000 cités à peu près à l'époque classique, dont Athènes est simplement la plus célèbre. Hein. Et donc, à l'époque hellénistique, on a une vision assez large du fonctionnement de ces assemblées, mais c'est vrai que pour l'époque archaïque, donc avant les réformes de Clisthène, pour faire simple, donc 508-507 et l'époque classique, la documentation attique, la documentation autour de la cité athénienne est prépondérante. Et donc c'est effectivement sur Athènes que l'on est d'une certaine façon obligé de se concentrer, d'autant que c'est là que s'invente la première forme de démocratie qui va ensuite devenir un régime extrêmement banal à l'époque hellénistique. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier de dire, c'est que la cité ne meurt pas avec Alexandre le Grand et son père Philippe II, et que la démocratie ne s'est jamais mieux portée qu'à l'époque hellénistique.
Alors, il faut peut-être aussi comprendre que on se raconte des histoires. On se raconte des histoires de cité, on se raconte une généalogie de la cité, on se raconte la façon dont s'est instauré justement ce régime. Et lorsqu'on se raconte des histoires, on peut se raconter à l'époque romaine, donc sous Plutarque, la façon dont Thésée a fondé justement un début de démocratie, donc tel que se le racontent les Romains. C'est un extrait de Plutarque lu par Lison Pinet.
Voulant agrandir encore la cité, il appela tous les gens du peuple, leur promettant les mêmes droits. Et l'on dit que la phrase « Venez tous ici, gens du peuple » vient d'une proclamation qui fut faite par Thésée pour convoquer une assemblée générale. Mais il ne voulut pas que la démocratie fût sans ordre et que la foule qui l'y versait s'y confondît sans distinction. Le premier, au contraire, il sépara les eupatrides des cultivateurs et des artisans. Aux eupatrides, il réserva le droit de connaître les choses divines, de fournir les magistrats, d'enseigner les lois, d'interpréter le droit public et le droit sacré. Entre les autres citoyens, il établit comme une sorte de balance. Les eupatrides semblaient avoir l'avantage de la considération, les cultivateurs de l'utilité, les artisans du nombre. Qu'il inclina le premier vers la foule, comme le dit Aristote, et qu'il renonça au pouvoir absolu, c'est ce que semble témoigner Homère dans le catalogue des vaisseaux, où les Athéniens seuls sont désignés du nom de peuple.
Voilà un texte difficile à comprendre, donc parce qu'il est une sorte de résultat de couches de superposition d'histoires qui se sont racontées sur la démocratie athénienne. Lorsque Plutarque écrit, on est très loin justement de cette Athènes classique et encore plus loin du règne de Thésée, Vincent Azoulay. Néanmoins, cela dit quelque chose de ces sources généalogiques que veulent voir les Athéniens et d'autres cités d'ailleurs dans ce qui s'est passé dans l'époque archaïque.
Oui, c'est un texte très intéressant et un texte piégé, puisque bien entendu, plutarquement, volontairement ou pas, peu importe, mais il ment, c'est-à-dire qu'on est là face à quelque chose qui est tout à fait fascinant, c'est la façon dont la démocratie a d'une certaine façon, ou c'est peu à peu, inventé des origines en dehors d'elle. Et cette démocratie où le peuple a eu un rôle primordial pour arracher le pouvoir, le prendre d'une certaine façon à ceux qui le possédaient auparavant, eh bien, c'est imaginer des origines où ce pouvoir était concédé, et concédé par un roi, et pas n'importe quel roi, Thésée, Thésée qui est censé être celui qui fonde la cité, la communauté civique. Il y avait des Athéniens, mais c'est lui qui les rassemble et qui leur donne, disons, une première forme de régime politique. Et c'est ce même Thésée qui, dans un second temps, aurait déposé le pouvoir royal, donc pour le répartir au sein de la population et en organisant une démocratie, la première forme de démocratie, disent les sources à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, et une démocratie qui va bien aux notables, c'est-à-dire une démocratie extrêmement modérée, où le pouvoir est balancé, équilibré. Donc précisément, en réalité, ce qui n'est pas une démocratie.
Plutôt une oligarchie.
Mais plutôt une oligarchie. Donc la façon dont... en réalité, à l'époque romaine, à l'époque de Plutarque, qui vit à la charnière du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ, qui est un notable qui a beaucoup vécu à Rome, sa façon de reconstruire les origines de l'époque la plus florissante d'Athènes, c'est d'une certaine façon de dessaisir le peuple de son propre pouvoir pour l'attribuer à un roi bienveillant.
Anaïs Kien.
Mais justement, lorsqu'on parle de cette assemblée populaire, la notion même de peuple pose question, va varier, et certaines composantes du peuple vont prendre le dessus par rapport à d'autres selon les moments. Tout ça varie d'une décennie à l'autre et d'une période à l'autre en permanence, Vincent Azoulay. Donc on n'est pas toujours devant la même assemblée d'une certaine façon.
Et oui et non, vous avez tout à fait raison, l'Assemblée change beaucoup avec des moments très importants dans cette évolution. Donc tout le monde a le droit d'y aller, il y en a une quarantaine par année. Mais le problème, bien entendu, c'est
qu'il y a environ 6000 participants, alors, au maximum, autour de 6000 participants en tout cas pour chaque réunion.
6 à 8000 pour les plus importantes, parce qu'un certain nombre de décisions demandaient un quorum, qui était en général fixé à 6000. Le lieu même des assemblées, l'Apnix, qui est aménagé, disons, dans les années 460, puis ensuite réaménagé au 4e siècle, contient... Alors d'abord environ 6000 personnes, puis jusqu'à 8000, disons, au 4e siècle. Donc sur un corps civique qui compte environ de 30 000 à 40 000 citoyens au 5e siècle, un petit peu moins au 4e siècle.
Le site n'est pas clos dans un premier temps, on va le clore. C'est à ce moment-là qu'on arrive à savoir avec un peu de précision combien de personnes tiennent dans cette assemblée, à partir de quel nombre on doit fermer les portes, puisque sinon c'est intenable. Mais avant, on a du mal à calculer, puisque finalement, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de limite à cette assemblée.
Oui, disons que de toute façon, ce n'est jamais vraiment clos, mais disons qu'il y a un soutènement qui se fait. Les Athéniens, à la fin du 5e siècle, un peu après 403, vont remanier profondément donc la Pnyx, le lieu où sont organisées les assemblées. Et désormais, on y accède par deux escaliers. L'orientation est inversée. Et effectivement, le contrôle, certainement aussi, de ceux qui y rentrent est facilité. Et c'est effectivement à partir de cette fin du 5e, début du 4e siècle, qu'on peut mieux compter ceux qui s'y rendent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque aussi, la composition des assemblées change. C'est-à-dire qu'au 5e siècle, c'était les plus motivés qui s'y rendaient, mais on n'était pas défrayé pour le temps que l'on passait au service de la communauté. Alors qu'à partir de probablement 403 et 400 avant Jésus-Christ, eh bien, les Athéniens vont commencer à attribuer aux 6000 premières arrivées ce que les Grecs appellent un mistos, donc une indemnité de participation, qui permet aux plus pauvres de ne pas avoir peur de perdre une journée de travail lorsqu'ils se rendent dans ces délibérations, dans ces assemblées où l'on délibère des affaires communes.
Alors, cette assemblée s'appelle comment ? Parce qu'en fait, on a un peu du mal à s'y retrouver quand on travaille sur ce régime d'assemblée dans l'Athènes classique, avec vous, Vincent Azoulay et Anaïs Quien, parce qu'il y a l'Ecclésia d'un côté, il y a la Boulée de l'autre, et ce sont deux instances qui sont complémentaires, liées l'une à l'autre. C'est l'Ecclésia qui est la plus importante, la Boulée ne comprend que 500 citoyens, puis ensuite 400 un peu plus tard, c'est cela ?
Alors, c'est plutôt l'inverse, c'est d'abord 400 puis 500, ouais. Mais effectivement, c'est deux institutions qui sont intrinsèquement liées. Donc les assemblées comprennent potentiellement tous les citoyens de la communauté de plus de 18 ans. En revanche, le conseil, la boulée comprend simplement 500 membres tirés au sort pour un an. Et en principe, on ne peut l'être que deux fois dans sa vie, mmh. et pas de façon successive. Ces 500 membres ayant pour charge d'administrer notamment les finances de la cité, ce sont eux qui siègent tous les jours ouvrés, j'ai envie de dire, environ 275 jours dans l'année. Donc c'est une fonction qui dure un an, mais où on est au service de la cité en permanence. Ce sont eux qui donc gèrent les finances et qui surtout préparent l'ordre du jour des assemblées. Donc ça, c'est l'une de leurs fonctions principales. Il n'y a pas de discussion à l'Assemblée qui puisse se produire sans qu'il y ait une inscription à l'ordre du jour et la rédaction d'une proposition de décret ou de loi qui soit faite au niveau du Conseil.
Et qui doit être publiée 4 jours avant que cette Assemblée ait lieu.
Exactement. Disons que l'ordre du jour est publié 4 jours auparavant et l'Assemblée, parfois, ne fait que ratifier des propositions de décret qui ont été préalablement rédigés dans le cadre du Conseil.
Donc, si on comprend bien comment cela se passe, des citoyens peuvent proposer des propositions de loi à cette boulée, à ce Conseil, qui est représentatif de la grande ecclésia de 6 000 à 8 000 participants. Cette boulée, c'est donc 400 à 500 membres selon les périodes. Elle rédige des textes qui sont ensuite soumis à la grande ecclésia, justement un peu plus tard, au bout de 4 jours. Et ensuite, ces textes peuvent être promulgués et donc appliqués dans la ville d'Athènes. C'est cela, Vincent
Azoulay ? Oui, c'est cela. Disons que le Conseil a deux possibilités. C'est assez intéressant. Il peut simplement inscrire une question à l'ordre du jour. Et là, ce seront les orateurs qui s'avanceront, qui parleront devant le peuple, proposeront les décrets à adopter et voter par le Conseil.
Il y a assez peu de débats. On imagine bien qu'à 6 ou 8 000 personnes, le débat est un petit peu compliqué.
Ce ne sont pas des débats, ce sont des successions de discours. Effectivement, on ne débat pas à proprement parler, mais disons que sur un point à l'ordre du jour, vous pouvez avoir des prises de position diverses avec des orateurs qui arrivent avec leur proposition de loi et qui la proposent à l'approbation du peuple. Donc le Conseil peut simplement inscrire une question à l'ordre du jour, à charge pour les orateurs dans l'Assemblée de venir avec leur proposition de décret qui sera ensuite ou non adoptée, ou alors il peut rédiger entièrement le texte qui est ensuite soumis simplement à une sorte de ratification de l'Assemblée. Et toute une série de mesures techniques étaient comme ça adoptées de façon très rapide, lors d'un vote global. Toutes les questions non brûlantes, non polémiques, pouvaient être adoptées d'un coup.
Alors, on a beaucoup insisté dans ce qu'on appelle l'école française sur la Grèce, donc Pierre Vidal-Naquet ou encore Jean-Pierre Vernant et tous ceux qui travaillaient autour d'eux et d'elle, puisqu'il y avait aussi Nicole Leroux et d'autres. On a beaucoup insisté sur le fait que cette démocratie était une démocratie imparfaite, qui ne comprenait pas ni les métèques ni les femmes. On a un texte, évidemment, tiré de l'Assemblée des femmes, d'Aristophane, qui se moque, justement, de ce qui se passe dans cette assemblée, et en particulier, donc, qui imagine que des femmes, pour pouvoir justement prendre la parole, vont mimer la façon dont les hommes prennent la parole dans cette assemblée. Un texte qui nous est lu tout de suite par Lison.
Pourtant, si vous m'en croyez, vous pouvez encore être sauvés. Je dis qu'il nous faut remettre le gouvernement aux mains de femmes. C'est à elle, en effet, que nous confions dans nos maisons la gestion et la dépense. Combien elle nous surpasse en qualité, je vais le faire voir. Et d'abord toutes, sans exception, lavent les laines dans l'eau chaude, à la façon antique, et tu n'en verras pas une faire de nouveaux essais. La ville d'Athènes, en agissant sagement, ne serait-elle pas sauvée si elle ne s'ingéniait d'aucune innovation ? Elle s'assoit pour faire griller les morceaux, comme autrefois. Elle porte les fardeaux sur leur tête, comme autrefois. Elle célèbre les thesmophoria, comme autrefois. Elles pétrissent les gâteaux, comme autrefois, elles maltraitent leur mari, comme autrefois, elles ont chez elles des amants, comme autrefois, elles s'achètent des friandises, comme autrefois, elles aiment le vin pur, comme autrefois, elles se plaisent aux ébats amoureux, comme autrefois. Cela étant, citoyens, en leur confiant la cité, pas de bavardages inutiles, pas d'enquête sur ce qu'elles devront faire. Laissons-les gouverner, tout simplement, ne considérant que ceci, c'est que, étant mères, leur premier souci sera de sauver nos soldats. Ensuite, qui assurera mieux les vivres qu'une mère de famille ? Pour fournir l'argent, rien de plus entendu qu'une femme. Jamais dans sa gestion elle ne sera trompée, vu qu'elles sont elles-mêmes habituées à tromper. J'omets le reste. Suivez, mes amis, et vous passerez la vie dans le bonheur.
Voilà donc un extrait de l'Assemblée des femmes où une femme se déguise et se mime d'une certaine façon la façon dont un homme prend la parole dans cette Assemblée. C'est un texte qui peut nous être utile pour comprendre justement les prises de parole à l'Assemblée des hommes tels qu'ils procèdent au 5e siècle, mettons, Vincent Azoulay.
Oui, c'est la puissance de la caricature de dire quand même beaucoup de choses sur le fonctionnement normal des assemblées en grossissant le trait. Et c'est bien ce que fait ici Aristophane, donc dans les années 390, où, disons, l'intrigue de la pièce consiste à ce que les femmes, prennent le pouvoir par le biais de l'une des leurs, qui s'appelle Praxagora, et que l'on vient d'entendre, et qui, parce qu'elle habite pas très loin de la Nix a pu
écouter aux portes.
Exactement, écouter aux portes, et on pouvait en réalité insister au débat de la Pnyx, et elle sait mimer la façon dont les orateurs s'adressaient à la foule. Et on a donc une séance de répétition où l'on voit des femmes déguisées en hommes. Alors ce sont des acteurs, donc des acteurs masculins qui sont déguisés en femmes, qui là jouent à se déguiser en hommes, et qui donc essayent de prendre la parole comme le font les hommes. Et bien entendu, à part Praxagora, les autres femmes font n'importe quoi, elles ne savent pas comment s'adresser en public, et seule Praxagora, qui est une héroïne positive chez Aristophane, arrive vraiment à prendre la parole et à emporter la conviction. Et bien sûr, la pièce s'achève par cette victoire des femmes dans une optique carnavalesque, hein, parce que bien entendu, les femmes n'ont jamais pris le pouvoir à Athènes comme l'aurait souhaité cette Praxagora.
Anaïs Kien.
Alors, on a gardé quelques discours, mais à partir des éléments d'information que l'on a, Vincent Azoulay, peut-on s'imaginer quelle était l'ambiance de cette assemblée ? Parce qu'on imagine bien que 6 à 8000 personnes, c'est bruyant quoi qu'on fasse, que ces orateurs donc doivent se faire entendre aussi. Comment se faire entendre devant une assemblée si nombreuse, et comment peut-être est ritualisée ? Sont ritualisées ces séances qui ne durent pas plus d'une journée, au maximum du lever au coucher du soleil, je crois.
Tout à fait. Oui, c'est un grave problème de se faire entendre en plein air, quel que soit le temps, de 6 à 8000 personnes.
Et quand on monte sur la Pnyx aujourd'hui, bon, évidemment, il y a le bruit des voitures effectivement, qui couvre la voie.
Mais
effectivement, on voit bien combien c'est difficile, bien dans un espace venteux comme celui-ci, de prendre la parole.
Oui, c'est vraiment une performance oratoire. Et de fait, hein, ceux qui montaient à la tribune, puisqu'il y avait une tribune, devaient être exercés à la prise de parole. Et on ne s'improvisait pas orateur pour deux raisons. Parce qu'il fallait pouvoir s'adresser au peuple avec suffisamment de coffres et puis suffisamment de savoir-faire rhétorique. Et donc, il faut avoir une certaine éducation pour à la fois rédiger des propositions de décret et puis savoir comment s'adresser et convaincre. Et c'est là que les sophistes, notamment, sont intervenus pour donner une telle éducation, aux jeunes Athéniens qui voulaient avoir une influence politique à l'Assemblée. Donc ça, c'est la première limitation au droit égal à la parole publique. En principe,
il faut savoir prendre la parole.
Et en plus, quand on prenait la parole, on prenait un risque, dans la mesure où, a posteriori, l'orateur qui avait proposé un décret voté par l'Assemblée, mais qui s'avérait finalement néfaste aux intérêts des Athéniens, eh bien cet orateur pouvait être traîné devant les tribunaux et pouvait se voir infliger une amende, voire la perte de la citoyenneté. Donc cela, bien sûr, limitait ceux qui osaient prendre la parole et éventuellement, d'ailleurs, dire leur fait aux Athéniens sans les flatter comme l'auraient fait des gens comme Périclès ou Démosthène.
Anaïs Quien.
Mais comment s'ouvre une séance ? Qu'est-il dit ? Qu'est-il déclaré ? Les membres de cette assemblée doivent-elles prêter serment aussi, peut-être, pour garantir, d'une certaine façon, la probité de ces membres ?
Alors, oui, il y a toute une ritualisation de la prise de parole, et aussi, d'ailleurs, pour protéger la parole de cet orateur. Tout commence donc au lever du jour, et tout commence avec les dieux, c'est-à-dire que dès que les citoyens sont rassemblés, on leur a donné, en tout cas au IVe siècle, une sorte de petit tesson qui va leur permettre, à la fin de la réunion, de recevoir leur mistos, leur indemnité. Donc, lorsque tout le monde est à peu près rassemblé, commence la séance avec un sacrifice. On découpe un porcelet en deux, on traîne sa carcasse autour de l'apnix, ça purifie l'enceinte, puis le héros prononce des bénédictions et des malédictions. Il n'y a pas de serment à proprement parler, comme on en connaît pour le conseil ou pour d'autres magistratures, mais bénédiction et malédiction, hein, et notamment on maudit l'orateur qui chercherait à dévoyer le peuple. Puis ensuite, le héros de la cité s'avance et prononce cette phrase « Qui veut prendre la parole ?» Et là, en fonction des points à l'ordre du jour, il y en a en général 9, hein, 9 points à l'ordre du jour qui peuvent donner lieu chacun à plusieurs décrets, eh bien, des orateurs s'avancent pour proposer des décrets qui vont être ensuite ratifiés à main levée par le peuple rassemblé.
Alors, on imagine effectivement qu'il peut y avoir des débordements. On sait aujourd'hui ce que veut dire dans une assemblée contemporaine le rappel au règlement. Quelles sont justement les règles en particulier liées à la bonne tenue, à la bonne façon de se tenir? Justement, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que les orateurs apprennent à se tenir face à une assemblée aussi nombreuse que celle de l'Apnix. Qu'en est-il justement de ces façons d'être, de ces façons de se tenir, le corps de l'orateur, il est placé comment dans cette assemblée et que dit-il de la façon dont on se présente aux autres ?
Oui, c'est une question cruciale parce qu'effectivement, on a tendance à se représenter des assemblées sages et rangées, mais en réalité, on s'aperçoit qu'il y a des codes oratoires qui sont battus en brèche à la fois du côté des orateurs et du côté du public, de ceux qui écoutent. Du côté de l'orateur, en principe, au Ve siècle, on doit se tenir avec une certaine distinction, et notamment, disent les textes, la main prise dans l'imation, c'est-à-dire dans la pièce dans laquelle se drapent les orateurs, et plus généralement les Grecs à l'époque classique, et parler avec une certaine mesure.
Il y a une posture imposée.
Tout à fait, une posture imposée, une façon de... Voilà, une nexis, dirait Bourdieu, une façon de s'adresser au peuple avec mesure, mais une façon qui est battue en brèche assez rapidement, disons dans les décennies de la guerre du Péloponnèse, dans les années 430-420.
Un extrait donc de Échine, donc là aussi un grand orateur attique, donc dans son contre-Timarque, tout de suite.
D'autre part, nous avons tous aujourd'hui l'habitude de tenir la main hors du vêtement pendant que nous parlons. Or, nos anciens orateurs, Périclès, Thémistocle et cet Aristide qui portait un surnom opposé à celui de notre Timarque, montraient tant de réserve que cet usage, à l'époque où ils vivaient, paraissait entaché d'inconvenance et qu'ils se gardaient de le pratiquer. Or, voyez, je vous prie, combien Timarque diffère des hommes que je viens de nommer. Ceux-ci avaient honte de tenir un discours en montrant la main hors du vêtement. Timarque, lui, le fait n'est pas ancien, c'était un de ces derniers jours, mettait habit bas au beau milieu de l'assemblée pour donner tout nu une exhibition de lutte.
Extrait du contre Timarque d'Échine, lu par Lison Pinet, Vincent Azoulay.
Oui, c'est très intéressant parce qu'on voit que les usages du Ve siècle ne sont absolument plus respectés au IVe siècle et que Échine d'ailleurs parle d'une époque révolue. Plus personne Bien sûr, son adversaire Timarch, mais lui non plus, ne tient désormais avec mesure sa main dans Limoition. Et donc, les codes, les façons de s'adresser ont évolué, hein, un peu de la même façon qu'aujourd'hui, après la rupture introduite par Jacques Lang, hein, on vient parfois sans cravate à l'Assemblée nationale.
Ou que, donc, oui, effectivement, ou qu'on préfère les petites phrases aux longues périodes oratoires comme
voilà,
les orateurs de la Troisième République.
On en appelle au souvenir du général de Gaulle, mais je ne pense pas que les Français supporteraient encore l'éloquence gaulienne si on l'a leur administré. Et donc, il y a toute une série de codes, mais de codes qui, effectivement, évoluent et qui, de toute façon, sont battus en brèche. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, du côté du public, on ne reçoit pas la parole de l'orateur de façon sage et soumise, même si l'orateur porte une couronne de myrte sur la tête, lorsqu'on lui donne la parole, et qui est censé le rendre inviolable et respecté. Mais ce n'est pas du tout comme cela que cela se déroule la plupart du temps, en tout cas lorsque les sujets sont polémiques.
Et on imagine aussi que les orateurs se présentent comme représentants d'un groupe, d'un parti qui prend position sur telle ou telle proposition de décret, par exemple. Et que ces groupes aussi s'affrontent, peut-être. On peut peut-être spatialiser aussi ces invectives et ce rapport de force qui s'instaure dans cette assemblée.
Oui, tout à fait. Il y a alors non pas des partis, hein, avec ce que cela suppose d'idéologie, de programme, de ligne politique structurée et d'institutionnalisation, hein, mais il y a des factions provisoires, des clans qui se recomposent au gré de la conjoncture politique. Et effectivement, des gens qui vont faire soit la claque ou au contraire ce que les Grecs appellent le torubos. Le bordel. Disons, en tout cas, des lazis, des hurrahs, des sifflets, des applaudissements. Hein, et on en a de nombreux exemples pendant le discours de l'orateur, jusqu'à parfois même le faire taire. On verra peut-être tout à l'heure. Cette façon donc qu'a l'orateur de devoir affronter la rumeur de la foule montre aussi d'ailleurs tout le calme, toutes les compétences oratoires que devait un orateur pour aller au bout de son discours, évidemment.
L'insulte est permise, autorisée ou au contraire elle est interdite?
Elle est théoriquement interdite, l'orateur est inviolable, mais ce n'est pas comme ça que cela se déroule. On le voit dans un certain nombre de plaidoyers ou de harangues, et des orateurs s'en plaignent d'avoir été insultés, à tel point que en 346, les Athéniens font passer une loi qui décide que autour de la tribune, donc où se tient l'orateur, désormais se tient les membres d'une même tribu. Il y a 10 tribus à Athènes, et c'est désormais les membres d'une même tribu qui vont se trouver au contact. Alors ça tourne hein, à chaque assemblée, qui vont se trouver au contact de l'assemblée de façon à éviter que
comme une sorte de service d'ordre.
Le service d'ordre, c'est une tribu, donc c'est la fraction représentative d'un dixième de la population attique. Et là-dessus, il va y avoir des gens qui sont partisans de l'orateur qui parle et aussi de ses adversaires. Mais ça évite les phénomènes de claque ou au contraire d'hostilité que devrait essuyer l'orateur. Mais on sait qu'auparavant, hein, il y avait, et avant 346, donc pendant une bonne partie du fonctionnement à plein de la démocratie athénienne, il y avait certainement des groupes hostiles ou au contraire en faveur de l'orateur qui se regroupaient autour de la béma, de la tribune, pour éventuellement encourager ou au contraire décourager celui qui parle.
Alors il y a tout de même un paradoxe qui d'ailleurs est pointé par des mouvements citoyens d'aujourd'hui qui s'intéressent à cette démocratie athénienne en disant qu'il y a peut-être de quoi renforcer la démocratie aujourd'hui. C'est qu'il y a à la fois c'est ce droit de parole égal pour chaque citoyen, l'iségoria, et de l'autre côté, la parésia, qui est cette nécessité de la franchise. Donc, effectivement, chacun a le droit de prendre la parole de façon égale, mais la franchise de l'Assemblée doit pouvoir s'exercer et donc, d'une certaine façon, ne pas rendre égale chaque parole de celui qui prend la parole. Donc, il y a effectivement une contradiction interne qui est réglée comment, Vincent Azoulay, dans ces assemblées du 5e, 4e siècle?
Mais donc la parésia, oui, c'est à la fois celle du peuple, mais c'est aussi celle de l'orateur. Celle de l'orateur qui doit avoir le courage de parler, de défendre en principe les intérêts du peuple, y compris contre la volonté du peuple et contre l'Assemblée. Donc on a effectivement cette tension-là et des orateurs qui, d'ailleurs, sont sans arrêt en train de jouer sur cette tension en disant « Vous ne connaissez pas vos propres intérêts et moi je vous les montre et vous pouvez me siffler, mais ce que je vous dis, c'est ce qui vous sera favorable. » Donc la parésia, c'est effectivement une exigence que s'impose en principe à lui-même l'orateur qui doit parler en faveur du peuple, mais y compris contre sa volonté, et prendre un risque, puisque la parésia, et ça Foucault l'avait bien, Michel Foucault l'avait bien montré, hein, c'est ça a à voir avec le risque. Il y a un risque, et ce risque, c'est notamment le fait d'être déféré devant les tribunaux a posteriori pour l'orateur qui aurait fait une proposition de décret s'avérant défavorable aux intérêts du peuple, et pourtant ratifié par le peuple.
Anaïs Kien.
Oui, ce qui étonne d'ailleurs, Vincent Azoulay, c'est l'ampleur des attributions de cette ecclésia, de cette assemblée. C'est-à-dire qu'à la fois, elle s'occupe d'administrer la citoyenneté, de la donner ou de la retirer, des successions, de confirmer les magistrats, de certaines accusations, de certaines plaintes, de l'approvisionnement, de la défense et aussi des procès politiques. On a du mal à imaginer comment en 40 sessions seulement, on peut faire tout ça.
Les assemblées sont maîtres de tout, nous dit Aristote. Alors, elles sont maîtres de tout avec l'appui du Conseil, de cette boulette de 500 membres qui prépare le travail et qui permet que le système fonctionne, qui est un lieu crucial puisque c'est là que l'information s'agrège, s'aligne, se codifie et l'Assemblée ne pourrait pas fonctionner de façon efficace sans l'appui de ce Conseil qui vient en quelque sorte organiser toute une série de savoirs collectifs, publics et le transmettre, ce savoir, à l'Assemblée.
Mais tout de même, il y a quelque chose qui, visiblement, est complexe à comprendre aussi, Vincent Azoulay, c'est que la crainte, c'est la crainte qu'on pourrait retrouver dans, par exemple, dans le monde arabe, avec la crainte de la fitna, la crainte de la séparation. Là, c'est la crainte de la stasis. C'est donc la crainte de l'affrontement, de la guerre civile. Et donc, comment joue-t-on sur la ritualisation des conflits au sein de l'Assemblée, au sein de cette ecclésia, et pour éviter que ça ne déborde et que ça ne devienne justement une guerre civile à l'intérieur de la cité. C'est-à-dire que comment joue-t-on entre le rôle de la représentation du conflit dans l'ecclésia et qui empêcherait d'une certaine façon la guerre civile d'advenir ?
Disons que c'est précisément tout ce travail collectif qui a lieu donc très fréquemment, 40 fois dans l'année, qui, d'une certaine façon, est le meilleur moyen de conjurer la stasis, la guerre civile. C'est parce que, précisément, ces conflits sont sans arrêt repris, qu'ils sont sans arrêt remis sur le métier, si j'ose dire, que, d'une certaine façon, la stasis peut être conjurée. Et la stasis, elle apparaît précisément quand il n'y a plus d'assemblée. Lorsque l'Assemblée est aux mains de quelques-uns, par exemple en 411, Athènes sort d'une expédition catastrophique où un quart de la population civique a péri, c'est l'expédition de Sicile. Un quart, donc c'est plusieurs, si on transpose ça en France, c'est plusieurs millions d'hommes qui seraient morts, pire que la guerre de 14. 12 000 citoyens qui disparaissent en l'espace de 2 ans. Et donc beaucoup aussi de citoyens pauvres et qui étaient vraiment les points d'appui de la démocratie athénienne. Ce qui reste de citoyens se trouve sur les trières et donc à Athènes même, où les assemblées se tiennent, eh bien, il y a plutôt des gens assez fortunés qui vont mettre en place une oligarchie, donc qui vont mettre à bas provisoirement la démocratie, et finalement la démocratie va être réinstaurée parce que les soldats qui se trouvent sur les trières vont organiser leur propre assemblée, démettre leurs propres généraux et ensuite réinstituer cette démocratie. Donc l'Assemblée, effectivement, elle permet de conjurer le spectre de la stasis jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus et qu'éventuellement elle se sépare en deux avec une assemblée comme en 411 à Athènes qui va instituer l'oligarchie et une assemblée sur les navires à Samos, sur les trières, qui va au contraire réinstituer la démocratie.
Et d'ailleurs dans sa politique, Aristote réfléchit justement à cette différence entre démocratie et oligarchie. Lisons Pinet.
Il ne faut pas poser, comme certains en ont aujourd'hui l'habitude, que la démocratie existe purement et simplement là où la masse est souveraine. Car dans les oligarchies aussi, comme partout ailleurs, c'est la partie majoritaire qui est souveraine. Ni qu'il y a oligarchie là où peu de gens sont souverains dans la Constitution. Si, par exemple, l'ensemble des citoyens était de 1300 et que parmi eux il y ait 1000 riches et qu'ils ne partagent pas le pouvoir avec les 300 autres, pauvres mais libres et qui leur sont semblables sur les autres points, personne ne prétendra que ces gens vivent en démocratie. Et il en est de même si les pauvres, étant en petit nombre, sont pourtant plus forts que les gens aisés, tout majoritaires que soient ceux-ci. Personne n'appellerait un tel régime oligarchique si les autres citoyens, bien que riches, ne participent pas aux honneurs publics. Mieux vaut donc dire qu'il y a régime populaire quand les hommes libres sont souverains et oligarchie quand ce sont les riches.
Un extrait des Politiques d'Aristote, lu par Lison Pinet, Vincent Azoulay. Alors, on est plus tard dans le temps quand Aristote réfléchit à cela. Et d'une certaine façon, il réfléchit aux défauts, entre guillemets, la façon dont cette démocratie athénienne, en particulier, n'a pas toujours bien fonctionné et a permis parfois, effectivement, la prise de pouvoir des oligarques.
Oui, alors, il réfléchit effectivement aux défauts de la démocratie, et puisque tout son projet dans les politiques, c'est de trouver, mais à partir d'une enquête empirique, hein, le meilleur régime politique possible. Donc il réfléchit effectivement aux défauts de cette démocratie, mais ce qui est intéressant, c'est que lui ne se paye pas de mots et c'est une lutte entre les pauvres et les riches qu'il...
C'est la lutte des classes.
C'est d'une certaine façon, oui, hein, il ne faut jamais oublier que dans la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et que le démos, on peut l'entendre à la fois en un sens politique, tous les citoyens, mais aussi en un sens sociologique. Mmh. Et à ce moment-là, le démos, ce sont les pauvres. Et ce sont les pauvres, ceux qui, à Athènes notamment, se trouvent sur l'étrière, qui, désormais au 5e siècle, font l'essentiel, par exemple, de l'effort de guerre, et qui réclament un pouvoir politique à la hauteur de ce rôle militaire nouveau qui se développe lors des guerres médiques. Et donc, Aristote ne se paye pas de mots, et il sait que les affrontements au cœur des cités, et de toutes les cités grecques, ce sont des affrontements entre riches et pauvres. Et que la question, c'est de savoir si les pauvres, à un moment, se rendent maîtres de tout, et c'est ça, une véritable démocratie. Alors, elle a ses défauts, mais la question est véritablement posée, et on ne trouve pas chez Aristote une improbable classe moyenne, ou un centre, ni droite, ni gauche.
Anaïs Kien.
Alors justement, on peut aborder cette question de la participation, de l'assistance, de l'engagement de ces classes les plus défavorisées d'Athènes aux séances de cette assemblée, de cette ecclésia.
Et oui,
sont-ils là? Que font-ils? Sont-ils engagés ou viennent-ils simplement justement toucher leur obole pour leur simple présence?
Et oui, alors les opposants à la démocratie radicale, pas à la démocratie, hein, mais à la démocratie radicale, là où effectivement le peuple est dans sa composante sociologique, a le pouvoir, disent les pauvres ne sont là que pour toucher leur indemnité. Mais en réalité, non, absolument pas. Ça, c'est ce qu'un certain nombre d'intellectuels font valoir, mais ce n'est pas le cas. Alors, ils participent comment? Souvent, ils ne prennent pas la parole parce qu'ils n'ont pas les compétences rhétoriques, mais en revanche, ils sont là, avec une surreprésentation du peuple qui habite à Athènes ou non loin de la ville, parce qu'il faut pouvoir se rendre à l'Assemblée, hein, que c'est pas toujours facile. Donc il y a une surreprésentation, disons, du démos urbain, du peuple qui se trouve en ville. Et ils sont là, et ils vont peser sur les orateurs par leur présence et faire que ceux-ci ne peuvent pas dire n'importe quoi et si éventuellement ils ne prennent pas bien les propositions qui sont faites, ils vont le faire taire par le biais du chahut, donc ce que les Grecs appellent le torubos.
Alors, ce qui est extrêmement intéressant, et vous le savez bien pour travailler sur ces sujets depuis longtemps, Vincent Azoulay, c'est qu'il y a des âges de relecture de cette démocratie athénienne. On peut remonter au XVIIIe siècle et aux Lumières. On voit comment, effectivement, dans les années 60 et 70, cette question des classes était importante et on s'est intéressé à tous ceux qui n'étaient pas citoyens dans cette Athènes classique. Et aujourd'hui, avec, par exemple, la reconstitution de ce clérotérion, donc par les équipes du CNRS, on s'intéresse beaucoup à cette démocratie du tirage au sort, dont on voudrait voir la possibilité de régénérer notre propre démocratie. Il y a à chaque fois un regard différent qui est porté sur cette démocratie athénienne, selon ses procédures, selon la façon qu'on veut, on veut la voir fonctionner, Vincent Azoulay.
Oui, c'est vrai. Là, en ce moment, il y a une fixation un peu pathologique, me semble-t-il, sur le tirage au sort dans la démocratie athénienne et comme façon de faire revivre la nôtre. Je crois que c'est une, alors c'est effectivement une composante cruciale et notamment du fonctionnement des tribunaux populaires et du Conseil, mais il me semble que cela a tendance à poser mal la question de la démocratie. Et s'il y a quelque chose à mettre en avant dans cette invention de la démocratie qui se fait jour en Grèce, c'est moins celle procédurale du tirage au sort, même si là, c'est quelque chose de très important, que la question du contrôle. Et souvent, on a du mal à comprendre que la vraie spécificité de la démocratie athénienne, c'est la façon dont le peuple contrôle ses élites, et par toute une série de procédés formels et informel, et y compris au théâtre, par le biais de rumeurs, par le biais du torubos, du chahut. Et ça, ça renvoie à une anthropologie, à une façon d'être démocratique qui est beaucoup plus importante qu'un tirage au sort auquel on pourra finalement faire un petit peu dire ce que l'on souhaite selon exactement la forme procédurale choisie.
Ce que vous voulez dire, c'est que le système était un véritable système, c'est-à-dire ecclésia, boulé, ailier, tout un tas d'autres institutions,
et toute une série l'élection de pratiques des stratèges. Rituelles, élection des stratèges, pas simplement institutionnelle. Il y a un ensemble qui est à la fois fait de pratiques institutionnelles, mais aussi de mœurs, de comportements, qui aboutit à ce que le peuple prennent le pas sur les élites. Et au grand dam de gens comme Platon, qui en est tout à fait conscient. C'est le peuple qui domine les élites, et non pas les élites qui dominent le peuple, comme cela devrait l'être. Et lorsque Thucydide dit, c'est Périclès qui, c'était de démocratie de nom, mais en fait, le premier citoyen gouvernait, c'est en réalité une fiction, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est peu à peu en train de changer. Et véritablement, au IVe siècle, c'est le peuple qui contrôle les élites. Et Platon en est bien conscient.
Et ce modèle athénien, vous nous le disiez au tout début de cette émission, Vincent Azoulay, se répand dans d'autres cités, justement, pendant ce IVe siècle. Et il va faire florès, au bout d'un certain temps, bien ailleurs qu'à Athènes.
Oui, c'est alors sous une forme un petit peu modérée, c'est effectivement les institutions de l'Athènes classique qui vont se répandre dans une grande majorité, donc des 800 à 1000 cités que compte le monde grec et que l'on voit fort bien fonctionner à l'époque hellénistique grâce aux milliers de décrets qui nous sont parvenus, gravés sur pierre. Et donc on a comme ça une diffusion du modèle démocratique, ce qui a fait dire, et ça c'est les relectures récentes des institutions politiques et de la politique en Grèce ancienne qui l'ont montré, ce qui fait dire que l'âge d'or de la démocratie n'est peut-être pas l'époque classique, le 5e et le 4e siècle, mais l'époque hellénistique.
Merci beaucoup Vincent Azoulay, on aura grand intérêt à vous lire dans votre Périclès en particulier, cher Armand Collin, mais aussi dans la documentation photographique que vous avez constituée donc pour autour de la question de l'Athènes justement à l'âge classique. Merci à vous Anaïs Quin d'avoir été
merci
avec nous, merci à vous Lison Pinet d'avoir lu
merci
les textes de cette émission de ce jour. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marseille, Yanis Djoudad était avec nous à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Demain, nous continuons cette série consacrée aux assemblées en nous intéressant aux états généraux.